sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir,
le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Diana Psangaré. La gourmandise de ce jour date de 1970 et s'intitule « Intérieur et hippopotame ». Il s'agit d'un tableau du peintre figuratif Gilles Ayot représentant le mammifère de profil, tête baissée devant une porte close. La douceur des tons gris et crème, le moelleux des courbes de l'animal et le caractère graphique de la géométrie contentent, voire apaisent l'œil du spectateur. Pourtant, une tristesse calme émane de la scène. Tel un reclus dans sa cellule, le pachyderme demeure dans un intérieur étriqué, cerné de barreaux. C'est saisissant et beau, comme souvent ce qui émeut. Après des études d'histoire de l'art et l'intégration de l'Institut National du Patrimoine, notre apothicaire de l'âme dirige les musées de Châteauroux et enseigne à l'école du Louvre. Elle rejoint ensuite le musée d'art moderne de la ville de Paris, le Grand Palais et le centre Pompidou. Depuis 3 ans, elle dirige le musée de l'Orangerie. Conservatrice du patrimoine et spécialiste de l'art moderne en peinture auquel elle a consacré plusieurs ouvrages, elle est la commissaire de nombreuses grandes expositions telles que Lucian Freud, l'atelier, Matisse, Pers et séries, Marcel Duchamp, la peinture même, de Reims 1904-1914, la décennie radicale, Franz Marc et Auguste Maqueux, l'aventure du cavalier bleu, oui j'ai envie de tout citer, ça me fait plaisir, ou encore l'année dernière, le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay et Préhistoire, une énigme moderne au centre Pompidou. Bonjour Cécile Debray.
Bonjour Eva.
Je précise pour les auditeurs que tant de maladies obligent, nous ne sommes pas au même endroit, ce qui explique peut-être l'écho que vous entendez. Cécile Debray, vous êtes en studio à la maison de la radio, je vous vois sur un petit ordinateur, vous êtes masquée très sagement, et moi je suis chez moi. Et la distance ne vous fera pas échapper à la question fondatrice de l'émission, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Oui, c'est idiot parce que je savais que je venais, j'ai même pas préparé cette question.
Ah, je ne vous crois pas.
J'entretiens un rapport, je pense, assez détendu, je veux dire, à la mélancolie. Peut-être parce que je suis pas une mélancolique et que j'estime que les moments de mélancolie un peu léger et poétique sont nécessaires, voilà, sont nécessaires à la vie et en fait j'aime quand il y a une part de mélancolie dans la plupart des choses, dans les paysages, dans les lectures, dans le rapport, cette sorte de distance qu'on a avec le réel qui me semble nécessaire et souvent bienfaisant.
Comme finalement, Cécile Debray, un retrait du monde pour mieux l'observer ?
Oui, c'est ça. Alors, je mesure bien que je peux affirmer cela parce que je ne suis pas une mélancolique dans le sens voilà,
de la pathologie.
Je ne suis pas dépressive, je n'ai pas... J'entretiens, je dirais peut-être pour faire un oxymore, un rapport heureux à la mélancolie.
C'est joli. Alors bon, j'annonce le sommet des réjouissances puisqu'il en sera question et j'ai beaucoup ri en préparant cette émission. J'espère qu'on pourra transmettre ça aux auditeurs. Dans quelques instants, Cécile Debray, vous allez convoquer Monet, Matisse, l'artiste brésilienne Janaína Chepe, le rire, la contemplation esthétique, l'écrivain espagnol Enrique Villamatas, Nani Moretti, la chanteuse Camille, Leonard Cohen, des bains de mer, du jardinage, de la danse et des mouettes, juste après Drôle d'histoire de Junior dans la playlist de France Inter.
C'est toujours qu'un faux départ, sans changement d'adresse. J'ai beau vider les placards, je retourne ma veste. Quand c'est moi qui pars, c'est que l'autre reste. Pourtant, tous les soirs, je fais semblant de croire au jeu de rôle. tristesse. C'est un peu tôt ou trop tard pour faire des politesses. Mais si on s'accorde quelque part, c'est pour la beauté du geste. Tous les soirs, je mens.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Cécile Debray.
Je ne mets pas Dieu à quelquefois ni de nez ni de bouche à mes personnages, mais c'est parce que l'expression porte dans tout le tableau, n'est-ce pas, les bras, les jambes, tout ça, ce sont des lignes qui agissent comme dans un orchestre, un registre des mouvements de timbres différents. Si bien que si on met des yeux, un nez, une bouche, ça n'a pas grande utilité, au contraire, ça paralyse l'imagination du spectateur et ça l'oblige à voir une personne d'une certaine forme, d'une certaine ressemblance, etc. Tandis que si vous donnez des lignes, des valeurs, des forces, eh bien son esprit part à travers ça et alors l'imagination est délivrée de toute limite.
Le peintre Henri Matisse dans Couleurs de ce temps sur la RTF en 1951. Votre premier remède, Cécile Debray, vous entoure, c'est la peinture. Et pour commencer, vous avez choisi de nous parler de la force et de la poésie de Matisse, notamment dans son tableau marocain au pluriel, réalisé vers 1915-1916, et qui figure la terrasse d'un café au Maroc où Matisse s'installe en 1912 après un séjour à Moscou. Et je dois vous faire un humble aveu, je ne comprends rien à ce qu'on voit sur le tableau. Je n'arrive pas du tout à saisir la perspective. Alors, est-ce que vous pouvez nous prendre par la main et nous faire entrer dans la peinture de Matisse, Cécile Debray?
Oui, alors est-ce qu'il faut comprendre quelque chose? Je ne sais pas. Vous avez donné le sujet, donc effectivement c'est une terrasse de café à Tanger, un peu particulière pour nous à imaginer aujourd'hui, parce qu'en fait les Marocains qui sont sur cette terrasse en fait sont assis par terre. Et Matisse représente en fait des masses colorées, des silhouettes colorées dans un paysage qui effectivement n'est pas structuré par une perspective mathématique, mais plutôt par des pans colorés qui forment des vibrations. Donc on a une sorte d'univers comme ça, très ouvert et très très poétique, très nuageux presque, où on voit ces formes, ces silhouettes blanches des buveurs hein, du café, avec la lumière du soleil et sorte de d'irisation comme ça de l'atmosphère avec... Et c'est peut-être moi, c'est ce que j'aime dans cette œuvre, c'est que c'est totalement ouvert et effectivement on devine plus qu'on ne voit en fait l'espace dans ce tableau.
Lorsque Matisse s'installe à Tanger en 1912, je crois qu'il est assez déprimé.
Oui, alors Matisse, on dit toujours que c'est le peintre du bonheur, il croyait d'ailleurs que l'art avait une vertu réparatrice, mais en fait c'est un peintre qui doute énormément, c'est un peintre qui cherche, qui tâtonne, qui est toujours très... très inquiet, très insatisfait en permanence de ses tableaux. Alors, c'est quelque chose qu'on perçoit dans sa peinture parce que très souvent, il fait des repentirs qu'il laisse visibles. Donc, il a même intégré dans sa manière de peindre ses doutes. Ce qui en rend la lecture, je dirais, à la fois très contemporaine. C'est-à-dire que c'est une peinture qui est à la fois très sensible. C'est un merveilleux coloriste, avec une merveilleuse poésie. Hein. Et c'est à la fois un artiste conceptuel, dans le sens où il donne à voir la genèse presque intellectuelle de son œuvre.
Cécile Debray, vous avez choisi justement une autre œuvre de Matisse qu'on trouve également au MoMA, c'est la leçon de piano, et on voit le fils de l'artiste.
Oui, alors c'est un tableau très célèbre. D'ailleurs, j'ai choisi deux tableaux très célèbres de Matisse, mais que je vois de temps en temps, mais pas si souvent, puisque elles sont à New York, ces œuvres, mais à chaque fois, c'est un ravissement. C'est en fait une... Matisse a peint une pièce de sa maison, un salon de sa maison qui est ouvert sur le jardin, avec une grande fenêtre ouverte sur le jardin, et son fils en train de suivre sa leçon de piano. Alors il y a eu beaucoup d'anecdotes sur le fait que c'était une véritable souffrance pour le fils, mais enfin peu importe, ce qui est intéressant, c'est évidemment la manière dont ce tableau est construit par des grands pans colorés et qui pourtant, malgré la hiératisation, l'aspect très très géométrique, presque cubiste hein, dans cette toile, il y a un sentiment, je dirais, de l'espace, de l'après-midi ouverte sur un jardin, une après-midi, un dimanche après-midi presque de cette tranquillité domestique qui est tout à fait extraordinaire.
Je le disais tout à l'heure, Cécile Debray, vous êtes la directrice du musée de l'Orangerie. On y trouve évidemment Matisse et un autre de vos onguents picturaux. C'est la pièce maîtresse de l'Orangerie, le chef-d'œuvre de l'impressionnisme dans lequel on peut s'immerger des heures durant, les Nymphéas de Monet. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire des Nymphéas avant de les décrire, évidemment, puisque je crois que c'est un cadeau offert le lendemain de l'armistice de novembre 1918 par le peintre à la France comme symbole de paix?
Oui, alors c'est un cadeau qui va mettre beaucoup de temps à être effectif, puisqu'en fait Monet est à l'arrière. Évidemment, c'est déjà un vieil homme. Hein. On est là en 1918. Il est dans son jardin à Giverny, très ami avec Clémenceau et culpabilisant, ou en tout cas étant un peu frustré d'être comme ça à l'arrière, sachant que le pays est à feu et à sang. Et il va donc décider d'offrir un de ces panneaux des Nymphéas qu'il est en train de peindre. Mais en fait, on est au tout début de cette création, puisque c'est en 1916 qu'il se fait construire un immense atelier pour peindre des très grandes, ce qu'il appelle ses grandes décorations. Et à partir de cette parole donnée à son ami Clémenceau, en fait, il lance une sorte de défi qui va aboutir à ces fameux Nymphéas à l'Orangerie. En fait, il va y consacrer les 10 dernières années de sa vie, puisque l'ensemble des panneaux va être livré au musée de l'Orangerie, lieu qu'il a choisi en 1926, quelques mois après sa mort.
Qu'éprouvez-vous, Cécile Debray, quand vous y allez? En fait, non, il y a une question que je me pose, c'est en tant que directrice du musée de l'Orangerie, j'imagine qu'il vous arrive d'aller le contempler lors des heures de fermeture du musée, toute seule.
Ah oui, ça m'arrive, oui, bien sûr.
Quel est ce sentiment qui s'empare de vous lorsque vous êtes devant? Parce que Monet disait qu'il aimerait créer l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage.
Oui, c'est un lieu, c'est drôle d'ailleurs parce que c'est ce que je disais, ce sentiment réparateur que peut provoquer la peinture, que souhaitait faire Matisse, que souhaitait susciter Matisse. En fait, Monet également hein, l'a choisi puisque il décide d'installer une sorte de havre de paix, de contemplation, en plein cœur de Paris, à l'endroit le plus actif, c'est-à-dire Place de la Concorde. Et donc, il joue comme ça sur ce rapport entre la ville, le jardin, la contemplation et en même temps la rapidité de la vie urbaine moderne. Et quand on est, effectivement, c'est un grand privilège, mais quand on est assise au milieu des nymphéas, On a ce sentiment particulier d'être à la fois dans Paris, peut-être dans un des lieux les plus proustiens, enfin de Paris, et d'être environné par cette peinture qui est en fait une œuvre très radicale de Monet. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre absolue, une œuvre monde. C'est l'aboutissement de toute une vie de peinture pour Monet. Bon, ce serait long de l'expliciter, mais c'est un lieu très très particulier.
Cécile de Bray, Monet était-il un mélancolique?
Alors, je sais pas si on peut, pareil, comme tous les grands artistes, un artiste qui doute beaucoup, qui désespère beaucoup, effectivement, d'avoir tout raté, de ne pas pouvoir. De ne pas pouvoir réaliser ce qu'il cherche par-dessus tout, c'est-à-dire à saisir les reflets dans l'eau. Donc c'est vraiment l'exercice le plus difficile qu'on puisse imaginer pour un peintre. Et donc il se donne ce défi depuis des années. Et en fait, quand on lit sa correspondance avec Clémenceau, on voit effectivement c'est quelqu'un qui se laisse tomber. Alors est-ce que il s'appuyait sur son ami Clémenceau qui était particulièrement vaillant et qui pouvait vertement lui dire écoute tu sais faire que ça de peindre alors peins et tais-toi. Mais il est un peu torturé quand même par sa peinture.
Bon, ça nous voilà rassurés. Cécile de Bray, en ce moment, à l'Orangerie, il y a un contrepoint contemporain au Nymphéa. C'est l'installation vidéo Blood Sea, donc le sang et la mer, de l'artiste contemporaine brésilienne née en Allemagne, Janaína Chepe, une œuvre dont le titre est emprunté à Italo Calvino. Je vous laisse nous décrire de quoi il s'agit.
Oui, alors c'est une installation vidéo de cet artiste que j'avais rencontré au moment où j'ai participé à l'accrochage Elle à Centre Pompidou, donc des artistes femmes de la collection. Et c'est une installation vidéo qui montre en fait une sorte de ballet de sirène, la sirène ayant été habillé de bandes de tissu coloré par l'artiste, donc un ballet aquatique qu'elle a filmé en Floride dans ces lieux qui sont typiquement américains où il y a des sortes de ballets aquatiques par des sirènes qui sont déguisées en sirènes, donc avec une queue vous imaginez une queue de sirène en plastique, etc. Donc là elles sont évidemment elles ont une toute autre allure, mais en fait ce sont des danseuses en apnée. Et Janaína les a filmées dans l'eau, donc la caméra est dans l'eau, et on voit cette sorte de ballet à la fois de bulles et des plantes qui sont dans une eau un peu verdâtre et parfois un peu glauque, et ces bandes de tissu qui évidemment tournoient dans l'eau, et ça fait un effet très particulier. Moi, ça m'avait énormément frappé quand je l'avais montré donc à Rio, quand on avait montré une réduction de cet accrochage de Elle à Centre Pompidou, et j'avais été totalement emportée par ce sentiment d'immersion sous l'eau. Et quand j'ai pris mes fonctions à l'Orangerie, j'ai tout de suite pensé à cette œuvre en me disant mais il faudra un jour la montrer. Pas très loin de Monet, parce qu'il y a vraiment une sorte d'écho, alors un écho en plus très féminin, très brésilien dans ce rapport presque fusionnel avec la nature. Il y a un son qui est le son en fait de l'eau, de la plongée, et donc dans cette petite salle au sous-sol à l'Orangerie, je pense qu'on aura l'impression d'entrer dans un aquarium.
Je ne suis pas réaliste. Je crois que l'écrivain plus réaliste du monde n'arrive à être jamais réaliste. Et comme style, le réalisme finit avec Madame Bovary ou Bovary Péquichet, c'est le final du réalisme, parce que Flaubert apporte le réalisme jusqu'à ses limites.
L'écrivain espagnol Enrique Villamatas au micro d'Augustin Trapenard en 2011 dans le Carnet d'Or sur France Culture. C'est l'auteur de votre sérum littéraire, Cécile Debray, et merci pour la découverte parce que c'est drôle, surprenant, remarquablement intelligent, c'est un délice. Le livre, c'est Impression de Cassel, donc d'Enrique Villamatas, publié en 2014. Et alors, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en art contemporain, et j'en fais partie, que se passe-t-il à Cassel tous les 5 ans et quelle est la mission dont on a chargé Villamatas ?
Alors oui, je réfléchis. C'est vraiment un des livres qui m'avait fait le plus rire. Il y a longtemps. C'est vraiment ce livre de Villamatas parce qu'il est invité. Cet écrivain donc est invité à Cassel où se tient tous les 5 ans l'une des plus mythiques foires d'art contemporain qui est la Documenta. Et il est invité pour en quelque sorte pour faire une performance en tant qu'écrivain, c'est-à-dire d'aller tous les jours dans un restaurant chinois dans la banlieue de Cassel pour écrire face à voilà au Kidam qui ne sait même pas qui est cet écrivain ni ce qu'il fait. Et donc Villamatas d'abord hésite, il est approché par une assistante et en fait tout le livre raconte en fait d'abord sa valse hésitation pour accepter cette invitation, après son interrogation, et ensuite on le suit comme une sorte de Candide au pays de l'art contemporain, et on va découvrir à la fois la documentation où il y a quand même des artistes très très fameux, hein, Pierre Huyghe, Tino Segal, et on a droit à son monologue intérieur et c'est hilarant, mais vraiment il y a une sorte de jeu de l'absurde avec ses pensées, cette sorte de réaction. Enfin pour moi ça a été c'était un très très bon moment. Oui.
C'est un livre en effet très drôle et incroyablement intelligent, et il faut dire que l'écrivain souffre d'un mal rare, c'est qu'il est de bonne humeur le matin et saisi par des affres de mélancolie et d'angoisse le soir, donc ça l'empêche de sortir, ça contraint beaucoup son agenda. Et il y a un enjeu presque existentiel dans ce voyage qu'il va faire justement en Allemagne. On dirait qu'il va découvrir le secret de l'univers en fait, en déchiffrant le labyrinthe des avant-gardes de l'art contemporain. Il y a quelque chose de très touchant, c'est une très bonne introduction justement pour ceux qui s'intéresseraient au sujet. Il y a quelque chose de touchant dans le fait que justement, comme vous le disiez, il se rend compte de la facilité qu'il y aurait à se moquer de certaines installations contemporaines, comme il est vraiment aisé de le faire, mais à aucun moment il n'a ce cynisme. Il les découvre presque avec une sorte de ludique enfantin. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un courant d'air artificiel qui lui donne froid et il trouve que c'est du génie. Un courant d'air signé par un artiste.
Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que ça n'est jamais une sorte de regard un peu populiste, hein, sur l'art contemporain. Il est toujours très facile de faire de l'humour sur des œuvres qu'on ne comprend pas. Et il touche de manière très juste parce qu'il y a aussi tout le cheminement qu'il fait lui-même pour rentrer dans ses œuvres. Mais il y a aussi l'ironie. Donc il y a un équilibre comme ça qui est assez joyeux. Je pense que notre profession de commissaire d'exposition en prend pour son grade aussi parce que il décortique avec beaucoup de...
C'est très drôle.
Voilà, beaucoup de malice, toutes les hiérarchies entre l'assistante, la sous-assistante, la super commissaire et le voilà, donc c'est assez savoureux, oui, sur notre
monde. Mais il y a beaucoup
monde.
Beaucoup de tendresse,
oui, et d'intelligence, quoi, dans,
ah oui,
voilà, ouais.
Est-ce que vous nous liriez un petit passage de ce livre, Cécile Debray?
Alors je veux bien, il faut je vais vous lire, ben voilà, juste un petit paragraphe qui donne peut-être une idée de son ton. Où il revient en fait sur le pourquoi de son acceptation de cette invitation. Il dit « Moi, je savais pourquoi j'avais accepté, mais il n'était pas question de l'avouer. Outre l'originalité et le côté littéraire de la manière dont j'avais été invitée, j'avais accepté parce que je n'avais jamais pensé que ce qu'on m'avait proposé serait un jour à ma portée. comme si on m'avait invité à jouer dans mon équipe de football préférée, quelque chose que, ne serait-ce qu'à cause de mes 63 ans très récents, on ne me proposerait plus, jamais plus. Et aussi parce que depuis quelque temps, depuis que je m'étais remis d'un collapsus provoqué par ma vie dissolue, je faisais l'expérience d'un rétablissement sur tous les plans. Et au sein de ce processus, mon écriture s'était ouverte à d'autres arts que la littérature. Autrement dit, la matière littéraire avait cessé de m'obséder et j'avais ouvert le jeu à d'autres disciplines. Voilà, il y a un mélange de sérieux et d'humour.
C'est un régal. Impression de Cassel d'Enrique Villamatas, c'est chez Christian Bourgois. Dans quelques instants, on parlera d'un Italien en colère, juste après un titre de la playlist France Inter de Strokes, Selfless. Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Cécile Debray.
Motore! Motore, 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 motore!
Uno, uno prima!
1998, Aprile de Nanni Moretti, film sous la forme d'un journal intime que je vous laisse nous raconter, Cécile Debray, avant d'expliquer l'extrait qu'on vient d'entendre, auquel j'imagine que les auditeurs n'ont absolument rien compris.
Le film, bah, c'est ce que vous avez dit, c'est une sorte de, ça prend la forme d'un journal intime au moment où le réalisateur, donc Nanni Moretti, a à peu près 40 ans et où il attend son fils, son premier enfant. Et donc c'est toutes les obsessions de Moretti qui sont là, mais dans un moment très heureux. Contrairement à d'autres films de Nanni Moretti, là, il y a une sorte d'euphorie liée à sa paternité. Et en parallèle, il y a ses projets, donc son fameux projet qui revient de manière récurrente dans ses films, notamment celle de tourner une comédie musicale sur un pâtissier trotskiste. Donc c'est...
qui est incarné par Silvio Orlando. Voilà. On voit aussi dans The Young Pope de Sorrentino, qui est extraordinaire.
Et qui est vraiment son comparse depuis ses premiers films. Et alors, ce qui est formidable, c'est... Enfin bon, moi, je sais pas, je suis très sensible à son humour. Je ris aux larmes à chaque fois. Et donc là, il est en général sur son scooter avec son casque blanc. Et en fait, il parcourt Rome. Alors c'est aussi dans le journal intime parce qu'il y a le pendant, mais bon voilà, il y a plein de scènes qui sont très très savoureuses, très poétiques, avec surtout beaucoup de musique aussi, et on le voit danser. Je crois que le passage musical c'est le dernier, non, je sais plus.
Oui, c'est la scène de fin que vous avez choisie, c'est
voilà,
de vrai.
Voilà. Et alors là, c'est moi, je ris aux larmes. C'est-à-dire qu'on voit une scène de tournage, donc dans un studio de cette fameuse comédie musicale, et donc la comédie musicale avec des danseurs, avec dans une pâtisserie, des gâteaux, etc. Puis tout d'un coup, il y a un contre-champ et on voit l'équipe de tournage avec Nanni Moretti au centre, les caméras, et toute l'équipe se dandine sur la musique. Et bon, voilà, c'est vraiment un film, une pantomime comique qui, pour moi, est hilarante.
Je vous disais hors antenne, Cécile Debray, que j'avais été évidemment essoufflée par le charme de Nanni Moretti, mais que j'avais eu envie de le gifler pendant tout le film. Et
pourquoi ?
Vous étiez très étonnée. Mais parce que, en fait, il parle tout seul, en fait, pendant tout le film. Il est très narcissique. Il frôle l'hystérie. Il frôle la folie, même. Et il est tout le temps furieux. Il crie tout seul. Et il y a quand même son épouse qui est enceinte. Il l'écoute jamais. Il écoute pas son équipe. Il est, en fait, concentré sur lui-même et sur sa propre colère. Ça peut être agaçant aussi.
Bah, c'est le personnage de Nanni Moretti. C'est-à-dire que le comique vient de là aussi. C'est vraiment une sorte de personnage totalement narcissique. Et c'est sa volubilité et cette sorte de discours obsessionnel. Ses chaussures, ses chaussettes, les gâteaux. Enfin, c'est toujours le même vocabulaire qui revient en tout du moins dans cette partie-là de sa création. Les films plus récents sont plus mélo, plus pathétiques. Moi j'aime beaucoup cette partie-là où effectivement il est un peu tête à claque, mais je l'adore, voilà.
Oui, avec un charme fou, il est irrésistible, beaucoup de fantaisie. Et puis finalement, Cécile Debray, ce film, c'est un peu la quête de la joie, parce qu'il va passer, et je ne déflore pas l'intrigue, puisque c'est simplement un état que je décris, il va passer d'un homme très en colère à un homme qui veut se concentrer sur la joie et sur les désirs vers l'élan vital, puisqu'avant, quand même, il collectionnait les couvertures de magazines qui le rendaient furieux.
Oui. Alors il y a tout l'arrière-plan de son cinéma est lié aussi à la question du politique. C'est-à-dire qu'il est vraiment, c'est vraiment cette génération d'artistes et qui a été très 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 engagée politiquement et qui évidemment va dès les années la fin des années 70-80 vivre de plein fouet une sorte de désillusion par rapport à la fin du mythe communiste et puis de l'utopie politique, et se concentrer en fait sur la sphère individuelle. Et en fait, il est vraiment emblématique de cette question. Alors vous êtes plus jeune, donc c'est vraiment plus du tout comment dire, c'est plus du tout la question de nos générations. Je viens vers vous, mais je suis entre les deux. Mais c'est vraiment c'est un regard très emblématique sur le XXe siècle. C'est vraiment l'échec profond du politique. Alors il y a quelque chose de très très mélancolique chez Nanni Moretti.
Et dans le mot Berlusconi.
Oui.
They sentenced me to 20 years of boredom. Trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Cécile Debray, votre premier antidote musical est signé d'un type qui, je pense, a des actions dans l'émission parce qu'il revient presque chaque semaine. C'est Leonard Cohen. Mais pour une fois, il n'est pas sombre, il est plutôt Guilleret. Et le titre sorti en 1988, c'est First We Take Manhattan. Pourquoi ce choix ?
Oui, alors c'est pas très original.
Non, mais si, ce titre, c'est la première fois.
Ah oui, alors oui, parce que moi, c'est un air qui est pour moi très. Très lyrique, et à chaque fois que je l'entends, ça me donne une énergie incroyable. J'ai une sorte d'envolée, mais vous l'avez, c'est le refrain, hein, et puis sans doute le texte, hein, de cette chanson. Il y a quelque chose de conquérant qui me redonne toujours beaucoup d'énergie.
Vous avez fait un autre choix, Cécile Debray, un choix de 2017, c'est Camille, fille à papa, en hommage à son père disparu. Un petit mot dessus avant qu'on l'écoute.
Je l'ai citée comme ça parce que c'est une chanson que j'écoute beaucoup, que j'ai découverte comme ça en écoutant la radio et que j'aime beaucoup. J'aime bien cette chanteuse qui joue avec les mots. Et effectivement, c'est une chanson très énigmatique pour moi. Vous voyez, je savais pas que c'était parce qu'elle avait perdu son père. Mais dans Fille à papa, il y a une sorte de mélange de passage de l'enfance à l'âge adulte que voilà qui m'émouvait.
C'est vrai. Le mot est très bien choisi. Énigmatique. Ce que fait Camille est souvent énigmatique et virtuose. On l'écoute. Camille, Fille à papa.
Lentement, je suis devenue grande et je viens à toi dans un roulement de hanche. À mon arrivée, collier de perles sur mes tempes.
Fille à papa, fille à papa,
fille à papa,
fille à papa.
Fille à papa, tu rêve. Tu t'élèves. Je me lève.
À la mélancolie sur France Inter avec Cécile Debray. Des activités qui vous mettent en joie, Cécile Debray, il y en a beaucoup. Alors je vous cite, flâner dans Paris avec vos proches ou seul. Seul, c'est toujours bien. Moi, j'aime quand il y a des activités seules puisque tous les auditeurs peuvent s'en emparer. Je pars d'un principe très pessimiste qui est qu'on est seul et qu'on crève de manque d'amour. Jardiner. Oui. Danser de façon spontanée, après un dîner avec des amis, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Ou vous baigner dans la mer.
Oui, c'est très simple ce que je raconte.
Non, mais comment fait-on aujourd'hui pour danser, Cécile Debray, de façon spontanée?
Moi, j'ai passé un réveillon où on était quatre et on a dansé jusqu'à 3h du matin.
Ah, voilà qui est réjouissant.
Donc, on peut. Moi, je peux danser avec mon compagnon. J'ai besoin de personne, à part lui.
Vous pouvez danser seule aussi?
Oui, moins quand même, j'aime bien danser à deux.
Cécile Debray, la danse a beaucoup été représentée en peinture, notamment chez Matisse et Monet, puisque vous aviez choisi ces peintres tout à l'heure. Mmh. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de rendre compte de la danse et du mouvement des corps dans un tableau qui est par essence totalement statique?
Facile, j'imagine que non, mais par contre, il y a effectivement, vous avez cité là vous avez cité Matisse, mais il y a très très grands tableaux sur la danse. C'est-à-dire que la danse fascine les peintres parce que c'est représenter un corps en mouvement, parce que la danse c'est aussi c'est lié au sentiment dionysiaque. La danse c'est un mouvement qui est à la fois qui incarne une sorte de joie, enfin la joie est presque la condition humaine depuis la plus haute antiquité. Donc c'est vraiment un motif qui traverse comme ça le temps. Le fait d'être homme, c'est de rire et de danser. Donc voilà.
Dans le chaos,
Cécile. Sur un volcan, on peut le dire.
Mais évidemment, c'est la moindre des choses. Quand vous parlez de jardinage, quelle est votre plus grande fierté? Est-ce que vous avez, par exemple, fait pousser, je ne sais pas, un légume fou, une fleur magnifique, ou peut-être même juste un petit germe de haricot?
Alors en fait, moi j'ai nous avons un très grand jardin en Normandie. Et donc, je sais pas, dans ce jardin, il doit y avoir plus d'une trentaine de rosiers. Donc, oui, ma fierté sont peut-être les roses de mon jardin.
Pourquoi les brettes ?
Non, il n'est pas cheap ce club. Ton moniteur est très compétent. Comme ça, tu auras ta moitié de bronze là, à la fin du stade.
J'ai dit que ça ne servait rien du tout.
Eh ben alors, on est en retard, mon madame.
Bonjour.
Oui,
bonjour.
N'importe. Pourquoi les mouettes?
Parce que c'est chouette, bon. Voilà.
Alors, Frédéric,
au revoir. Voilà,
ce bonne soir. Journée. Alors, pourquoi les mouettes? Allez, on s'en fout.
C'est votre citation béquille, Cécile Debray. Pourquoi les mouettes? Parce que c'est chouette. On peut l'entendre dans le film Liberté, Oléron de Bruno Podalydès. Pourquoi je vous laisse nous dire pourquoi ce choix?
Alors, je sais pas, c'est peut-être un petit clin d'œil à mon mari qui a tendance à avoir comme ça des formules qui sont nouvelles régulièrement, mais en tout cas celle de Bruno Podalydès est restée. Alors on est des fans aussi des films de Podalydès. Et cette formule, elle est un peu un refrain avec nos enfants pendant quelques temps.
Donc vous le dites parfois, vous regardez
familial. Non, mais ça peut même être totalement hors de propos.
J'espère.
C'est une sorte de cri de ralliement pour la famille de Bréhamard.
Cécile Debray, merci beaucoup d'être venue dans cette émission.
Merci à vous.
Je voulais annoncer la programmation de l'automne au musée de l'Orangerie et tout ce que vous chapeautez en ce moment. Mais avec le confinement, c'est un peu délicat puisque, évidemment, tous les musées ont fermé. Mais je le dis quand même, puisque j'espère évidemment qu'on pourra voir ces expositions après le confinement. Donc, étaient prévus au musée de l'Orangerie Giorgio de Chirico, la peinture métaphysique, les biches de Marie Laurencin et Janaïna Tchepe, entre contrepoint contemporain, ainsi que l'installation d'Agnès Turnauer, les matrices chromatiques. Vous avez aussi chapeauté la dernière édition du Festival des résidences d'artistes Viva Villa, qu'on aurait pu voir normalement jusqu'au 10 janvier prochain à la collection Lambert à Avignon, une exposition rassemblant le travail de 51 artistes issus des résidences de la Casa de Velázquez, la Villa Kujoyama et la Villa Médicis. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes évoqués sont sur le site de l'émission et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a l'allant d'une loutre noix de cajou. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.